Après avoir vu la semaine dernière que Dieu, en la personne du Christ, s'était inséré dans les généalogies humaines afin d'y amener le salut dans l'histoire de l'homme et affirmer que l'Ancien Testament pointait en sa direction, nous allons tenter de voir aujourd'hui comment et sous quelle modalité on peut objectivement, et j'insiste sur objectivement, dire que les livres de l'Ancienne Alliance contiennent le Christ, ont pour objectif d'annoncer la venue du Christ. La chose est importante car il ne suffit pas de christologiser l'Ancien Testament de manière arbitraire pour que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en soit bien la vedette. Je l'ai dit en introduction, il y a plein de gens qui lisent la Bible, même des théologiens, c'est vrai qu'ils ne croient pas tous spécialement en Dieu, qui à la lecture de l'Ancien Testament n'y voient pas spécialement l'annonce de la venue du Christ. Et le simple fait que les apôtres, nous l'avons vu dimanche dernier, aient compris leur texte biblique à l'ombre de la présence de Christ et de la promesse de sa venue, ça c'est un fait indiscutable, ne suffit pas pour autant à décréter que ces textes sont bien christocentriques, ont donc le Christ pour sujet. Il ne suffit pas que nous disions en tant que chrétiens que l'Ancien Testament parle du Christ, encore faut-il le prouver. Objectivement, exégétiquement, n'est-ce pas ? Quelles sont donc les modalités d'approche nous permettant d'analyser les textes de l'Ancien Testament comme étant recueil concernant le Messie et contenant le Messie. On peut distinguer trois manières de renvoyer à Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Ça, c'est une bonne nouvelle, il n'y en a pas 20. Il n'y en a que trois. Tout d'abord, la loi de Moïse, même si ça peut peut-être en un premier temps vous étonner, la loi de Moïse et les jugements que celle-ci prononce à l'encontre de ceux censés lui obéir. Et on sait en lisant les textes de l'Ancien Testament qu'on ne peut pas dire qu'Israël, qui a reçu ces textes, est brillé par son obéissance. La loi de Dieu est bonne, mais le cœur de l'homme est mauvais, donc incapable d'obéir à cette loi. C'est en substance le résumé de l'Ancien Testament et la raison de la loi de Moïse. Aussi est-il impossible pour l'homme de se soumettre aux exigences des commandements de Dieu. C'est ce que tout l'Ancien Testament révèle, annonce et décrète. Ce simple constat, donc, présent dans toute l'Ancienne Alliance, manifeste l'insuffisance de la loi donnée par Dieu à son peuple à régler le problème de l'homme, à savoir son péché. La loi seule, ça ne fonctionne pas. Il faut donc attendre autre chose, ou quelqu'un d'autre, une autre disposition prise par Dieu pour guérir ce qui est incurable, à savoir le cœur de l'homme. Ce quelque chose qui doit venir accomplir ce que l'homme n'aurait pas pu accomplir par lui-même, c'est le pardon, le salut proposé par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ, qui est le Messie, annoncé par les textes de l'Ancienne Alliance. Je vais prendre deux textes du Nouveau Testament. D'abord Galates 3, versets 24 à 25, qui va affirmer l'insuffisance de la loi. Ce n'est pas les seuls. Hein. Et c'est Paul qui écrit « Ainsi la loi », donc il parle de la loi de Moïse, bien entendu, « a été le guide ». Alors dans le grec, c'est « pédagogos », c'est-à-dire « pédagogue ». Alors pour ceux qui ne sauraient pas, à l'époque, dans l'Antiquité, le pédagogue était l'esclave qui enseignait les enfants de la maison. Et souvent, et parfois même, l'esclave qui amenait tous les matins les enfants à l'école, à l'enseignant qui était supposé l'enseigner. Et Paul reprend cette image, qu'il connaît bien, puisqu'il est passé par là également. Il reprend cette image pour dire que la loi était ce pédagogue qui devait nous amener, qui devait amener l'homme vers l'enseignant par excellence, celui qui accomplirait toute chose, à savoir le Christ. Ainsi, la loi était le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi et pas de l'obéissance à la loi, ce qui est impossible. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide, forcément. Quand ce qui est parfait est arrivé, est subvenu, ce qui ne l'est pas n'a plus de raison d'être. Deuxième texte qui va dans le même sens, Hébreux 8, 7. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, si elle avait accompli ce qu'elle était supposée accomplir, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si la loi de Moïse avait suffi pour guérir le cœur de l'homme, ben le Messie n'est pas nécessaire. Hein. C'est en quelque sorte le constat pédagogique que porte le Nouveau Testament sur l'Ancien, tout en ayant, et c'est important, tout en ayant l'Ancien comme référence. Hein. Paul et l'auteur de l'Épître aux Hébreux sont des Juifs qui ont l'Ancien Testament comme référence quand ils affirment ça. C'est leur connaissance dans cet testament qui leur permet d'apprécier les choses de cette manière. Donc ce constat a sa source dans l'Ancien Testament. Ce ne sont donc pas les chrétiens qui ont imposé cette lecture au texte, mais bien les textes eux-mêmes qui suggèrent cette lecture. D'accord ? En effet, dans l'histoire de l'Ancien Testament, il semble que les catastrophes aient stimulé et purifié l'espérance du peuple d'Israël et que Dieu ait attendu ces catastrophes pour faire ses plus belles promesses. J'en prends une des plus belles, qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Je vous encourage vraiment à relire Ésaïe ou à le lire, tout simplement. C'est 66 chapitres, je sais bien, mais c'est important. On l'appelle quand même le cinquième évangile, hein, Ésaïe. Qu'est-ce qu'il dit Ésaïe ? Il a alors ordonné, « Va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter. » Il parle d'Israël, hein, « Vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. » Paf ! J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur ? On dit, jusqu'à quand vas-tu permettre tout ça ? Il a répondu, jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains et que le territoire soit dévasté, désertique, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains, qu'une grande partie du pays soit abandonnée. Il parle du pays d'Israël, hein, du peuple d'Israël et du pays. S'il reste encore un dixième des habitants à leur tour, ils passeront par les flammes, c'est le jugement. Cependant, tout comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche, quand ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. C'est quoi la sainte descendance ? À travers les apôtres, c'est le reste fidèle d'Israël. Ce sont les apôtres. D'accord ? Je ne suis pas un spécialiste en botanique, mais je pense savoir que le chêne, si vous voulez vraiment le tuer tout à fait, il faut déraciner la souche. Tant que vous laissez la souche, ça pousse. Hein ? Intéressant, ça. C'est donc le reste fidèle, ceux qui ne plient pas le genou devant d'autres dieux. C'est déjà le cas d'Élie. Hein. Rappelez, le prophète Élie, il fait une dépression, je fais la version courte, il va dans le désert, il veut aller voir Dieu au mont Sinaï, courageux, hein. Quand il arrive là, Dieu dit, mais qu'est-ce que tu fais là, etc. Il dit, moi, je suis tout seul, Et Dieu dit, mais non, t'es pas seul. Il y en a 7000, pas beaucoup, hein. 7000 de mon peuple qui sont comme toi, qui n'ont pas plié le genou devant les faux dieux, qui m'adorent, moi, qui sont en relation avec moi. Ce reste fidèle dans l'histoire d'Israël, il a toujours existé. Souvent caché, pas très visible. On risquait gros à l'époque d'être visiblement un fidèle de Dieu, mais il a toujours existé. C'est donc dans la promesse les disciples qui sont la descendance de ce reste fidèle du peuple d'Israël. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que tous les apôtres sont juifs. D'accord ? Alors tout ça ne doit pas nous faire oublier que pour en arriver là, vous aurez un peu compris quand même à la lecture de ce texte assez dur, pour que la solution, le salut advienne, il fallait que l'endurcissement du peuple, si bien et si terriblement décrit par Ésaïe, entraîne la dévastation de leur pays, afin que la souche laissée en terre procure à nouveau la vie. Tant qu'Israël avait l'illusion d'une royauté, d'une souveraineté à travers un roi sur un trône, ils étaient convaincus d'être bénis par Dieu. C'était totalement faux. À un certain stade, Ésaïe annonce le fait qu'un jour, Jérusalem sera rasée, le pays occupé, le temple détruit, et que là, ce sera terminé. Ça sera la conséquence ultime de la désobéissance du peuple. Il fallait donc que les illusions de paix à bon marché soient arrachées une par une, par quoi, malheureusement ? Par le malheur, dans le sang et les larmes, à commencer par les larmes du prophète, pour qu'il puisse planter le message du renouveau. Et je cite ici Jérémie chapitre 1. « Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, mais aussi de construire et de planter. » Mais pour planter une nouvelle semence, il faut forcément déraciner l'ancienne. Il fallait que la force du peuple d'Israël soit entièrement épuisée, que sa prétention à se sauver lui-même soit éteinte, afin que Dieu produise sa libération. Je cite maintenant un texte du prophète Daniel, chapitre 12, verset 7. Je vous encourage, comme d'habitude, à aller voir sur le site cette semaine, d'aller lire les textes, etc. Je ne les cite pas tous, bien entendu. Et j'ai entendu, c'est Daniel qui parle, l'homme habillé de lin. Donc il a une apparition, une vision. Celui qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve. Ce fleuve étant l'Euphrate en Babylonie. Il a levé sa main droite et sa main gauche vers le ciel et il a juré par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps, deux temps et la moitié d'un temps et que tout cela prendrait fin quand la force du peuple saint serait entièrement épuisée. Ce que décrit ici l'envoyé de Dieu au prophète Daniel, c'est la venue du Christ en ce monde lorsque l'échec de l'ancienne alliance serait totalement consommé. Il faut qu'il ne reste plus rien comme exploit autre que celui-là. Les hommes véritablement pieux d'Israël, on en cite dans l'Évangile, il y a Anne, la prophétesse, au moment où Joseph et Marie arrivent dans le temple pour présenter l'enfant. Il y a le vieux Siméon. Eux, ils attendaient quoi ? La révélation du salut d'Israël. Et Siméon dira à son Dieu, vieux, hein, il dit, « Maintenant que j'ai vu ton salut, ô Éternel, tu peux me reprendre. » Il y avait cet appel profond du reste fidèle qui attendait son Messie. Donc en ce sens, l'échec de l'Ancien Testament dénoncé par les prophètes est avéré dans les faits et c'est l'articulation entre lui et le Nouveau Testament, la venue de Jésus, qui est l'articulation principale. C'est parce qu'il y a échec que le Christ doit venir, car comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, la loi de Moïse n'a rien amené à la perfection. C'est un échec. On pourrait aussi dire, l'Ancien Testament n'a rien amené à la perfection. Et ne le pouvait même pas, et je recite Hébreux 10, verset 1, « Car c'était l'ombre des choses à venir. » Je vais revenir sur cette idée d'ombre. Donc, puisqu'on parle d'ombre, venons-en à notre point suivant. Qu'est-ce qui peut nous faire affirmer que l'Ancien Testament parle du Christ ? C'est sa typologie. Oui, je ne sais pas, il y a un moment, je ne sais pas faire autrement que d'employer les termes qu'il faut employer. Dans la Bible, les événements, les institutions et les hommes, dans l'Ancien Testament, exercent une fonction dite typologique. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien, ça signifie qu'ils préfigurent Jésus-Christ et ce qu'il apporte. Un texte, 1 Corinthiens 10, verset 6, encore Paul. Or, c'est fait donc. Les institutions de Moïse, les sabbats, les fêtes, les commémorations, enfin tout ce que vous voulez. Tout ce qui est dans la loi de Moïse, les sacrifices. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, et même la désobéissance des Juifs, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le terme grec traduit ici par « exemple ». Ça m'embête qu'ils aient mis exemple d'ailleurs, parce qu'il donne la signification du terme en le supprimant, ce qui est pour moi toujours problématique en exégèse. Le terme grec traduit ici par exemple est tupos, qui veut dire type. On devrait donc lire, or ces faits sont arrivés pour nous servir de type. Paul nous dit que tout ce qui est arrivé aux Juifs dans l'Ancien Testament est un type de ce qui peut nous arriver. C'est une représentation de ce qui peut nous arriver, nous aussi, si nous suivons le même chemin. L'infidélité, le manque de foi, etc. Je parlais donc tout à l'heure. En Colossiens 2, 17, Paul va également utiliser le mot « ombre », « skia » en grec, pour parler de cette réalité typologique contenue dans l'Ancien Testament. Et on va lire ce verset de Colossiens. Encore une fois, ce qu'il parle avant, j'ai réduit le truc pour que ça ne soit pas trop long à lire et ça ne pouvait pas vous encombrer par trop de données bibliques en une fois. Tout ce qui est contenu en Moïse, toutes les exigences, les commandements de Moïse, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est du Christ. J'ai pris la traduction Darby, parce qu'il est souvent plus juste que les autres, à partir des origines, enfin en tout cas des langues originales. Dans d'autres traductions, c'est mais la réalité du corps, et du Christ, pardon. L'analogie que fait Paul, qu'utilise Paul ici, de l'ombre portée par le corps, soma, est très explicite, même si vous allez effectivement me dire le contraire. L'ombre n'est que l'expression de la réalité et pas la réalité elle-même. Je m'explique. L'ombre n'aurait aucune existence propre sans le corps dont elle est une vague émanation. Si vous n'existiez pas, vous n'aurez pas d'ombre. D'accord ? Et Paul utilise cette forme de typologie pour dire que la loi de Moïse, dans toutes ses règles, prescriptions et commandements, l'Ancien Testament donc, est l'ombre projetée par la réalité qu'est le Christ. Tout cela, dit-il, parle de Christ. En Hébreux 8:5, l'auteur utilise lui aussi le mot ombre pour qualifier le tabernacle et tous les sacrifices qui y étaient perpétrés. Il dit, ça aussi, c'est l'ombre des choses à venir. Tout ça annonçait le Christ. Le même auteur de l'Épître aux Hébreux va employer dans un même sens typologique des mots tels que image ou podegma, mais aussi parabole, pour parler des ordonnances et des pratiques de la loi de Moïse. Tout ça n'est donc que l'ombre émanant de la personne du Christ. C'est l'ombre du Christ, mais ce n'est pas encore le Christ. Ça l'annonce, mais ça ne l'est pas. Vous me suivez ? Vous n'êtes pas votre ombre. J'espère que vous avez compris. Moi, je ne peux pas être en discussion avec une ombre. Quoique. Alors, mais c'est dans l'évangile de Jean que la typologie concernant Jésus est la plus explicite. Rappelez-vous, Jésus s'y proclame dans l'évangile de Jean être la manne, la véritable manne. En référence à quoi ? À la manne ayant nourri les Juifs dans le désert, mais ne les ayant pas empêchés de mourir. La manne les a nourris les Juifs dans le désert, mais ils sont tous morts. D'accord ? Lui, Jésus, est la vraie manne. Car personne ne donne la vie éternelle à part lui en donnant sa vie. Tous ceux qui prennent sa vie, qui adhèrent à sa vie, ne meurent pas. D'accord ? Vous ne verrez pas la mort, vous ne goûterez pas la mort. Dans l'évangile de Jean, Jésus se proclame aussi être la véritable source d'eau vive. Et dès lors, celui qui se désaltère, dit-il, n'aura plus jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Cette source d'eau vive est la même qui a empêché jadis le peuple d'Israël de mourir de soif dans le désert. D'ailleurs, Paul osera l'utilisation du type pour cet épisode de l'histoire de son peuple en disant, 1 Corinthiens 10, « Ils ont tous bu, il parlait du peuple d'Israël dans le désert, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. » Donc pour Paul, il est clair que le rocher du mont Horeb dans le désert et dont parle le livre de l'Exode est un type de Christ. Christ est aussi, ça vous le savez, ça on connaît je pense, le berger des brebis. C'est une allusion à peine voilée au psaume 23, l'Éternel est mon berger. Alors il y en a bien d'autres, bien entendu. Et enfin, troisième point, il y a forcément le prophétisme. Alors nous en avons déjà un peu parlé la semaine dernière en précisant que c'était tous les prophètes, le prophétisme en son ensemble, qui avaient cristallisé son message sur la venue d'un sauveur puisque la situation était irrésolvable. Et ce, indépendamment du message individuel et particulier pour son époque que chaque prophète a délivré. Il avait un message pour le temps présent et un message qui portait plus loin. Je vais y venir. Il faut donc dire que les prophéties sont souvent, excusez-moi l'expression, je n'en ai pas trouvé d'autre, double foyer. C'est-à-dire que la référence à Christ s'appuie sur le relais typologique. Je m'explique. C'est un peu comme si la prophétie ayant accompli son office pour son époque, je vous dis que dans la semaine qui vient, vous allez prendre plein la tronche si vous changez pas d'attitude. Voilà, je paraphrase. Cette affirmation du prophète rebondit comme sur une sorte de trampoline pour l'envoyer plus loin. Ça ne s'arrête pas au moment présent, ça rebondit plus loin. Et parfois, le type utilisé ne réalise que partiellement ce qui est visé. Alors j'ai pris un exemple pratique, je vais essayer de pratique à travers plusieurs textes pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. C'est par exemple le cas de cette parole de Dieu adressée par Dieu au prophète Nathan, en 2 Samuel 7, 13, 14. Je vous explique le contexte. David, il est à Jérusalem, il a une grande maison, il a un grand palais, il est roi d'Israël, tout roule, c'est le pied. Et il se dit, je suis quand même là, grâce à Dieu. il a été fidèle, et moi j'habite à un grand palais, et lui vit sous une tente. Ce qui est le tabernacle qui avait été amené. Mais c'est une tente quand même, c'est pas possible, quoi. Il dit au prophète, je vais construire une maison à l'Éternel. Et Nathan, il trouve ça fabuleux. Il dit, vas-y, fais ce que ton cœur désire. La nuit qui suit, Dieu dit à Nathan, il est bien gentil, David, mais le problème, c'est qu'il a du sang sur les mains. Il a tué trop de gens. C'est un guerrier, David, hein. C'est un roi batailleur. Il a fait les guerres de l'Éternel, mais enfin, n'empêche qu'il a tué des gens. Donc, il dit, tu lui diras que ce n'est pas lui qui construira ma maison, c'est Salomon, son fils. Et on va lire le texte. Ce sera lui, donc Salomon, qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai là pour lui, pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Ça, c'est très prophétique aussi. C'est-à-dire que Dieu se sert des nations non juives pour punir Israël. Donc, tout ça pour penser que Dieu est un gentil petit papa gâteau avec une grande barque qui traîne par terre, oublié, quoi. C'est un père qui corrige. Oui, je sais qu'aujourd'hui, ça ne fait plus trop bonne presse, mais parfois, les baffes, c'est éducatif. Ça ne peut pas devenir normatif. Mais les baffes, ça a fait ses preuves. David a l'intention de construire une maison à Dieu et Nathan lui dit qu'il peut le faire. La nuit suivante, donc Dieu parle à Nathan et il lui dit de dire à David que ce ne serait pas lui, mais son bien, son fils Salomon, qui lui conseillerait une maison. Alors, cette parole parle-t-elle bien de Salomon ? Absolument. Ben oui, dans le contexte, c'est clair. Mais ça rebondit. Trampoline. D'accord ? C'est pour cela que je parlais de prophétie à double foyer. Pensez aux trampolines, hein, ça, si ça vous aide, tant mieux. Hein. C'est le but. D'ailleurs, deux auteurs du Nouveau Testament y ont vu, l'une, une référence aux chrétiens, au peuple qui devait venir, à la souche fidèle. L'autre, une référence au Christ. Je vous lis les deux textes, 2 Corinthiens 6, 18. En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, c'est Paul. Hein. Comme Dieu l'a dit, et il cite l'Ancien Testament, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Paul y voit, il sait que c'est Salomon dont on parle, mais il voit là, trampoline, il voit une annonce de ce reste fidèle annoncé dans Ésaïe. Nous, l'Église. Psaume 2, verset 7. En effet, auquel des anges. Pardon, c'est Hébreux 1, 5 qui cite le psaume. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, avant que nous soyons les fils et les filles de notre père, il y en a un autre, un fils aîné. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il voit l'annonce prophétique à travers la lignée royale de Salomon, du Messie qui doit venir, à savoir le Christ. Retrampoline. D'accord ? Boring. Je fais bien le trampoline, je trouve. Parfois, la prophétie ou la prédiction est directe. Mais même dans ce cas, le langage typographique doit être décodé, même quand c'est direct. Je pense par exemple au chant du serviteur que l'on retrouve dans le livre du prophète Ésaïe à 4 reprises. J'ai les références à les lire, c'est magnifique. Pour que vous compreniez bien, voici par exemple les deux premiers versets du troisième chant du serviteur que l'on trouve en Ésaïe 50, versets 4 à 11. Mais je vais simplement lire donc les deux premiers versets. Le Seigneur, écoutez bien, le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Pardonne à tout le monde hein, d'être capable de soutenir l'affligé par la parole. Il réveille, oui, il parle de Dieu, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Jusque-là, je dis, ben, c'est Ésaïe quoi. C'est quand même un serviteur de Dieu. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, tiens, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Alors vous pouvez chercher l'Ancien Testament, vous pouvez consulter les sources extra-bibliques hors de la Bible sur l'existence d'Ésaïe. Il y a des sources extra-bibliques. Vous ne trouverez jamais Ésaïe, on n'a jamais craché au visage d'Ésaïe, je le dis comme ça. Donc, si vous avez un peu de connaissance des évangiles et de l'histoire biblique, vous avez quand même, à un moment, assez spontanément, pensé à quelqu'un d'autre. Non ? Si j'avais continué, c'était encore plus probant. Il me semble que la référence au Christ est claire, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle doit être décodée. Elle est décodée à partir de quoi ? À partir de ce que nous savons bibliquement du Christ, bien entendu. Alors, à titre personnel, ça c'est pour info, hein, il m'arrive à certains moments de lire ce troisième chant du serviteur en entier, dans mes moments d'intimité avec Dieu, et de me l'approprier. Ne suis-je pas un serviteur de Dieu à la suite du Christ ? Ne le sommes-nous pas tous ? Comme vous le voyez, la typologie peut fonctionner dans un sens d'appropriation personnelle. Et c'est très bien comme ça, me semble-t-il. Parfois, il arrive également que la prédiction soit directe, et ah, ça c'est génial, et expliquée par celui qui utilise le type. Il l'utilise un peu comme quand Jésus faisait une parabole et qu'il expliquait le sens de la parabole à ses disciples qui n'avaient rien compris. Parfois, pour la prophétie, quand un orateur, un prophète ou un apôtre utilise un texte dans un certain cas, il explique dans quel sens et pourquoi il utilise le texte. Ça, c'est génial, hein. Il dit le truc et il explique pourquoi il le dit. C'est bien, comme ça on comprend. Prends un exemple. Le cas de Pierre est de l'emploi qu'il fait du psaume 16, verset 10, dans le message qu'il adresse aux Juifs et que l'on trouve dans le livre des Actes. Et je vais lire, il est un peu long, mais je ne pouvais pas couper dedans. Hein. C'est Pierre qui parle. Israélite, il est juif aussi, hein, je précise. Hein. Écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges, des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Il n'y avait pas de hasard là-dedans. C'était le plan de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies, les Romains. Okay. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. C'est le psaume que je citais tout à l'heure. Pierre continue. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort. Il était enseveli, son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu l'avait juré par serment de faire surgir le Messie d'un de ses descendants pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. David ne pouvait pas parler de lui, mes amis. Il est mort. Alors, quel est le raisonnement de Pierre ? On va vous aider. Quel décodage fait-il de ce psaume 16 ? Ce texte ne peut pas s'appliquer à David, puisqu'il est resté dans le séjour des morts. C'est ce que Pierre dit. Il dit, je sais que tu ne me laisseras pas dans le séjour des morts. Ah oui ? Avant Jésus, les résurrections, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Puis même les résurrections, il y en a dans la Bible à part Jésus. Hein. Mais tous ces chants sont remords. Hein. Zachée, ressuscité. Oh, merci! Mais tu remords, hein? Donc, il a connu la mort deux fois, lui. Oui! Merci, Jésus. Lazare, merci. Donc, mais il est remords. Donc, en fait, notre ami Lazare, moi, j'aurais un peu voulu à Jésus. Hein. Oh, il m'a ressuscité. Oui, mais tu vas remords plus tard. Deux fois mort. Lui, là, ça, celui, c'est du. T'es de nouveau là? Ben oui, je suis remords. Deuxième point. Ce texte ne peut pas s'appliquer à David puisqu'il est resté en séjour des morts. David, en tant qu'auteur, avait le don de prophétie, ça on le sait. Relisez le psaume 22. Alors bien sûr, il parle de lui à Dieu. Il pleure, il est en souffrance. Mais quand il dit en psaume 22, « Ils m'ont percé les mains et les pieds. » À David, jamais de la vie. Il parle de qui ? de quelqu'un qui n'est pas là, qui naîtra 1000 ans plus tard. D'où est-ce que ça lui vient, ça? Du Saint-Esprit? Oui.
Oui.
Ben oui. Donc, David, en tant qu'auteur, a le don de prophétie, et il l'a prouvé en écrivant bon nombre de psaumes dits messianiques. Troisièmement, il exerçait ce don de prophétie dans l'attente consciente du Fils promis. Il savait, parce que Dieu lui avait dit, lui avait promis, que le Messie sortirait de sa lignée à lui. Il savait. Ce qui rend encore plus facile d'admettre qu'il a vu d'avance ce qui concerne le Messie. Il y croyait par la foi à la venue de ce Messie, à ce descendant. Et Dieu honore toujours la foi. Donc Pierre, animé par le Saint-Esprit, n'enseigne pas seulement ici que Jésus est ressuscité, mais que David, dans le psaume 16, l'avait prédit. Et que le sort de David, mort et enterré, exclut qu'on interprète la parole comme accomplie en lui. C'est tout simplement impossible. Alors tout ceci nous amène à quelque chose de très important. C'est que l'interprétation christologique de l'Ancien Testament n'est pas plaquée par la foi sur les documents qui ne la réclameraient pas par eux-mêmes. Les chrétiens n'ont pas forcé les textes pour y faire entrer le Christ comme par effraction, en violant au passage l'histoire. La preuve la plus probante d'un respect et d'une lecture historique des textes, c'est qu'Israël a développé une typologie, j'y reviens, qui ne se situe pas au niveau du terrestre et du céleste. Ils n'ont pas essayé d'oublier le terrestre pour s'élever vers quelque chose de plus grand. Mais ils sont bien restés dans le domaine de l'histoire, de leur histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que les textes ne nous invitent pas, parce qu'ils possèdent justement une dimension historique, à voir en tout et partout des, ce qu'on appelle des allégories. C'est important. La lecture du Christ dans l'Ancien Testament, ça n'est pas une allégorie, une spiritualisation des textes. Je vais m'expliquer. Une allégorie, vous le savez sans doute, est une façon de s'exprimer par image, par métaphore. Allégorie, la terre est une orange. D'accord ? Image, la terre est comme une orange. Vous voyez ? Ok. Pour le dire autrement, si vous avez une lecture allégorique, et ça existe, tout est sujet à interprétation. Alors, dans le sens qui nous occupe, si la Bible était allégorique, admettons, tout aurait un sens caché, divin, qu'il faudrait découvrir, et pour ce faire, avoir recours au service d'un spécialiste en mystère, un gars qui sait. Donc, ça veut dire que les autres sont des cloches qui ne savent rien aussi. Alors, j'aimerais vous dire que l'Église a échappé à ça. Eh bien, non, elle est tombée dedans. Elle n'a pas échappé à cette dérive allégoriste. Pourquoi ? Eh bien, justement, en grande partie, pour s'affranchir, s'écarter, éloigner l'historicité des textes de l'Ancien Testament et de l'histoire du peuple juif. Et ça a découlé aussi sur l'antisémitisme de l'Église. Donc, dans cette école allégorique d'interprétation des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau, tout est spiritualisé. Je prends un exemple. J'aurais pu en prendre, parce qu'il y en a vraiment des comiques. Hein, mais bon, ça n'a rien de comique. Je prends un exemple, celui de la pêche miraculeuse dans l'Évangile, dans les trois évangiles synoptiques. Vous vous rappelez la pêche miraculeuse ? Ils ne prennent rien, Jésus apparaît, jette ton filet à droite et ils prennent des poissons, mais des grands. Jean dit 253, c'est ça, hein, 253 je pense. Hein, gros poissons. Et il y a tellement de poissons que le filet, il est prêt de craquer. Dans la lecture allégorique, les poissons sont des personnes et le filet, c'est l'Évangile. Sans la pêche miraculeuse, l'Évangile ramènera des gens dans ses filets. Très gentil, mais un poisson, c'est un poisson. Et le contexte de ce texte ne permet pas de dire ça. Il y a des règles en exégèse. Vous ne pouvez pas faire dire n'importe quoi au texte. Un autre exemple que vous connaissez peut-être un peu mieux. La parabole du bon samaritain. Vous voyez ? On en voit un samaritain, donc un sang mêlé, pas un pur juif qui était détesté par les juifs, venir à l'aide d'un malheureux juif laissé pour mort par des brigands. Et celui-ci soigne ses plaies et en prend grand soin. En résumé. Ça devient dans la lecture allégorique, l'homme, parce que la parabole, Jésus en espérant que cette parabole définit ça, l'homme descend de Jérusalem, qui est sur une colline, vers Jéricho. Ce qui signifie qu'il descend du paradis vers l'enfer. Et ce samaritain est donc Jésus, qui est venu du paradis pour aller jusqu'en enfer. Ce même Jésus qui vient au secours du pécheur, laissé pour mort par ses péchés, les brillants, et soigné par l'Esprit Saint, l'huile que le Samaritain applique sur les plaies du malheureux. Alors je pourrais vous citer d'autres exemples, mais je pense que vous avez compris. Or, cette histoire du Samaritain, c'est très joli, hein. Mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est pas le contexte, c'est pas le sens de cette parabole, c'est pas ce que Jésus veut transmettre. Il y a des règles. OK? Alors, le père de ce système interprétatif, c'est ce cher Origène, fin du deuxième jusqu'à la moitié du troisième siècle, un père de l'Église d'Orient. Et il a fait de très nombreux émules après. Alors, certains le savent parce que j'ai déjà raconté cette anecdote qui est assez terrible. Donc, Origène, quand tu livrais la Bible, il voyait des allégories partout. Tous ces trucs de. Ça n'a aucun sens, c'est terrestre, ça n'a aucun intérêt. Donc, il essaie toujours de trouver un sens caché, élevé. Sauf cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu. En vérité, je vous le dis, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Certains se feront eunuques par amour pour le royaume. Ça, c'est pas étonnant. Tu t'appelles comment ? Je répète, hein. En vérité, je vous le dis, certains se font eunuques par amour pour le royaume. C'est un euphémisme. Jésus ne parle pas au sens premier. Origène, qui voit des sens cachés partout, là, il va le prendre au premier degré, il va se châtrer. Si. Heureusement, il a des disciples, Origène. Le maître s'est coupé là, dont les disciples, ils disent, bon, pff, il va nous. Oh merde, il va nous demander la même chose. Ce que je vous dis est historique. Oui? Pauvre Origène. Heureusement qu'à un moment, apparemment l'Esprit Saint, je ne dis pas qu'Origène n'avait pas l'Esprit Saint, mais il était un peu. À un moment, quand même, l'Esprit Saint a dit ça, ce n'était pas un bon plan, ce n'était pas le sens, et il va se rendre compte de son erreur, il va se rendre compte que c'est un euphémisme, et que Jésus parle simplement dans ce texte de Matthieu du fait que certains seront appelés par Dieu à un célibat consacré, donc à ne pas se marier. Ce n'est pas la norme, mais ça existe pour certains. Et ça existe encore, et il faut le réenseigner. Et il va donc bloquer des disciples. Surtout, ne le faites pas. Je ne suis pas certain qu'ils se bousculaient au portillon pour qu'on le fasse. Hein, mais heureux disciples. Hein. Merci le Saint-Esprit. Donc, si je devais définir, ou plutôt dénoncer la lecture allégorique, je dirais que l'allégoriste fuit l'événement, le jugeant inférieur et indigne. Par contre, la typologie biblique, elle affirme l'événement dans l'histoire et son sens pour l'avenir. Je vais arriver à la fin. Cachez votre joie. Hein. L'étude christologique de l'Ancien Testament n'a donc rien à voir avec une allégorie. Il n'y a pas d'allégorie dans la Bible. Il y a des moyens et des styles, des images et des paraboles, mais rien de caché, rien qui ne soit interprétable à partir du matériau fourni par les styles d'expression eux-mêmes. Il faut respecter les styles. Il y a des textes prophétiques, il faut poser l'exégèse, l'interprétation des textes prophétiques à partir des éléments prophétiques. Il y a des textes dits de la sagesse, proverbes, les psaumes. Il faut interpréter ces textes avec les outils d'interprétation que donnent les livres de la sagesse. Idem pour les livres historiques, idem pour les évangiles, etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc tout est compréhensible, tout est à portée pour qui sait voir et entendre. Même si Dieu a donné des enseignants pour enseigner l'Église, entre autres, même si personne ne comprend ce que l'enseignant enseigne. Les enseignants sont comme les prophètes, ils se sentent bien seuls. D'ailleurs, le mot allégorie, et c'est un symptomatique, n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Ça serait une question d'examen si j'étais prof de théologie systématique, ça. Et dans le contexte, il faut comprendre ce terme allégorie dans la notion de typologie encore. C'est en Galates 4, 21-26 et suivant, et ça je n'ai pas à vous le lire, c'est quand Paul fait la comparaison entre Isaac et Ismaël, qui sont tous les deux fils d'Abraham, mais l'un est le fils de la promesse et l'autre pas. Et il fait un distinguo, dont une typologie, en disant qu'Isaac annonce la vraie descendance d'Abraham, l'Église, les apôtres de l'Église, et l'autre pas, pour faire simple. Je vais reciter Blaise Pascal, notre ami Blaise, que j'ai déjà cité la semaine passée. Voilà ce qu'il dit, la plus grande, toujours dans ses pensées, hein, la plus grande des preuves de Jésus-Christ sont les prophéties. Déjà à l'époque, pour lui. Un père catholique, ça c'est très intéressant. Un père catholique, le père Pêche, a même été jusqu'à utiliser les probabilités. Et d'après ses calculs, et je le cite, la combinaison des traits prédits, donc ce qu'on annonce au sujet de Jésus, est attestée dans l'histoire du Christ, les correspondances entre ce qui est annoncé du Christ et ce qui se révèle en Jésus, n'aurait qu'une chance sur 10 exposant 20 d'arriver par hasard. Non, je ne me suis pas cassé la tête, hein. Donc c'est 10 fois 10 fois 10, 20 fois. Ben, 10 fois 10 exposant 10, ça fait déjà 10 milliards, donc vous continuez. En mathématiques, c'est l'impossible. Une chance sur, à un moment, c'est le E à l'envers, c'est ça? C'est impossible. Voilà. Il est bien ce père Pêche. C'est pas une poire, hein. Ah! Résumons-nous. La préparation de la venue de Jésus a fourni aux hommes les catégories nécessaires à l'interprétation de sa personne et de son œuvre. Comprenant qui était Christ, forcément, les disciples qui sont à l'origine de la lecture christocentrique de l'Ancien Testament ont eu recours à celui-ci pour comprendre ce qu'il était et ce qu'il faisait. Et l'objectivité de la référence des textes à sa venue garantit l'adéquation de l'interprétation qu'ils ont permise. Ça, c'est un peu compliqué, peut-être. Ce sont donc les textes qui permettent d'y discerner le Christ Jésus, son ministère et sa vie. Si je dois le dire autrement, je dirais que les textes crient, les textes de l'Ancien Testament crient le Christ et nous permettent à nous aussi de crier que l'Ancien Testament est christocentrique. Cette lecture qu'ont faite les disciples de leur Ancien Testament n'est donc pas le fruit d'une projection gratuite, mais c'est la vérité, avec un grand V, conformément au plan de la pédagogie divine. J'espère en tout cas que ces deux messages vont vous encourager, on peut toujours rêver, à lire l'Ancien Testament, qui est aussi, je le rappelle au passage, parole de Dieu. D'accord ? Si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne savez pas où vous allez. Et c'est une parole qui s'accomplit en Christ, et ça, en tant que chrétien, ça devrait nous parler d'une manière toute particulière. Que le Seigneur bénisse sa parole, Ancien et Nouveau Testament, et qu'il vous bénisse. Amen.